France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le procès de Nuremberg. Nuremberg. Ce nom fait surgir instantanément une multitude d'images restées gravées dans les mémoires. Une ville symbole du Troisième Reich, transformée en champ de ruines, un palais de justice intact où se pressent des journalistes du monde entier. Le procès de Nuremberg est un continent pour les historiens. Et les superlatifs manquent pour cet événement hors norme, qui dura plus de 10 mois, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, 403 audiences, des dizaines de milliers de documents et un procès-verbal qui s'étale sur 22 volumes. Nuremberg est le procès d'un monde qui s'effondre, celui de la folie criminelle nazie. Mais il marque aussi la naissance d'un monde nouveau. Pour la première fois de l'histoire, les hauts responsables d'un État sont jugés. À Nuremberg, naît ainsi l'espoir d'un ordre international fondé sur le droit et non sur la force. Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Sylvie Lindberg, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice de Nuremberg, La bataille des images, livre paru aux éditions Payot. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jean Brossier, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Anweise ich, ihr schließt euch den Kolonnen an! Und wir wissen, an uns liegt Deutschland!
Conformément à l'accord de Londres en date du 8 août 1945 et du statut de ce tribunal annexé au dit accord, accuse par les présentes, pour les motifs exposés ci-après, Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Räder, Baldur von Schirach, Fritz Saukel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Zeiss-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neurath et Hans Fritsch de s'être rendu coupable, individuellement ou en tant que membre des organisations dont il va être parlé, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, définis dans le statut du tribunal, ainsi que d'un plan concerté ou complot en vue de commettre ces crimes.
Les voilà donc, les monstres. Ils entrent un à un dans le tribunal plein à craquer, se disposant sur deux rangées. Dans la salle, on frémit de voir apparaître enfin les 21 visages de ceux qui étaient hier les maîtres de l'Europe. Des visages ordinaires, dépouillés de leur gloire passée, comme le note Joseph Kessel, qui couvre le procès, pour le journal François. Citons ces mots. Un froncement de sourcils de Göring faisait trembler l'Allemagne. Le voici accoudé, le dos rond. Il y a un an, Ribbentrop jouait encore au souverain dans les capitales occupées. Aujourd'hui, il est hagard, les yeux vides, ses cheveux gris en désordre. Et tous les autres, Lerzenberg, Frank, Van der Rath, ils sont là aussi, serrés les uns contre les autres, tous aussi insignifiants ou vulgaires, médiocres. Nous sommes le 20 novembre 1945 et les yeux du monde entier sont tournés vers la ville bavaroise de Nuremberg. Ou plutôt, vers ce qu'il en reste. Le centre historique et sa splendide architecture médiévale ont disparu sous les bombes alliées. Du vaste champ de ruines émergent çà et là quelques habitations et un monument resté intact. L'impressionnant palais de justice relié à une prison par un tunnel. La survie de cet édifice explique le choix de Nuremberg comme cadre pour le procès des grands criminels nazis. Elle inspire au juge soviétique Nikitchenko ce commentaire destiné à son homologue américain. J'ai l'impression que les pilotes de vos bombardiers songeaient déjà au procès. Ils n'ont épargné que le palais de justice. Vous autres, Américains, vous pensez toujours à tout. Choisie pour des raisons pratiques, la ville de Nuremberg est aussi le symbole vivant de l'avènement et de la chute du Troisième Reich, censé durer 1000 ans. C'est dans cette ville, en effet, qu'Hitler organise à partir de 1926 les grandes réunions annuelles du Parti National Socialiste ou Parti Nazi. C'est à Nuremberg que sont adoptées les lois antisémites de 1935 qui fournissent un cadre juridique à la persécution des Juifs. Alors, l'ironie de tenir un tel procès dans ce décor dévasté n'échappe à personne, et surtout pas aux journalistes, comme en témoigne ce reportage des actualités françaises.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes.
Le procès qui s'ouvre à Nuremberg s'organise sous la juridiction du tribunal militaire international, créé en août 1945 par les 4 puissances victorieuses. Les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France. L'objectif du tribunal, inscrit dans son statut, est clair. La poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre. Or, cet objectif n'a jamais été atteint dans l'histoire. Toutes les tentatives précédentes se sont soldées par un échec. Après la Première Guerre mondiale, notamment, les Alliés avaient voulu juger l'empereur Guillaume II pour son rôle dans le déclenchement du conflit. Mais le procès n'a jamais eu lieu, car les Pays-Bas, où le Kaiser s'était réfugié, ont refusé de l'extrader. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les atrocités nazies commises à l'Est horrifient les Alliés et ravivent l'idée d'un jugement des criminels de guerre. Dès 1942, à Londres, les représentants de 8 gouvernements en exil le demandaient. Châtier les coupables, oui, mais comment ? Par un procès dans les règles ou par une exécution sommaire ? La deuxième option est d'abord la préférence des Alliés. En 1943 se tient à Téhéran une rencontre capitale entre Churchill, Roosevelt et Staline, la première du conflit. Face aux 2 autres dirigeants, Staline se laisse aller une plaisanterie de son cru. Pour punir l'Allemagne, 50 000 officiers allemands devront être fusillés, dit-il. Churchill, qui comprend bien que la plaisanterie n'en est pas vraiment une, s'indigne et déclare que son opinion publique ne tolérerait jamais une telle exécution de masse. Mais le Premier ministre britannique est lui-même assez défavorable à un procès des hauts dignitaires nazis. En 1944, il propose donc d'établir une simple liste des responsables à exécuter sur le champ à la fin de la guerre. C'est ce que rappelle sur France Culture l'avocat Michel Habib Deloncle, membre de la délégation française à Nuremberg.
Alors Churchill, lui, était très expéditif. Il aurait voulu les prendre, les coller contre un mur et les fusiller. Alors c'est là où on entre dans la problématique de Nuremberg, où j'estime que c'est quand même un gros progrès dans l'histoire de l'humanité, que les vainqueurs, au lieu d'exécuter purement et simplement les vaincus et décider de les juger, dans un procès qui est réputé équitable.
Ce n'est qu'en mai 1945 que les Britanniques plient face aux Américains et acceptent le principe d'un procès. Le président Truman charge alors le juge à la Cour suprême, Robert Jackson, de le mettre en place. Il est donc le grand architecte du procès. C'est lui qui mène les négociations avec les délégations alliées sur le sujet brûlant de l'acte d'accusation. Car une question complexe doit être tranchée. De quel crime exactement va-t-on accuser les hauts responsables nazis ? Les alliés s'entendent rapidement sur la notion de crime de guerre. Elle est d'ailleurs inscrite dans le droit depuis le début du XXe siècle, elle ne pose donc pas de problème juridique. Elle évoque la violation des lois et coutumes de la guerre, comme l'assassinat ou la déportation de civils. Le chef d'accusation de crime contre l'humanité, grande nouveauté du procès, pose des difficultés bien plus grandes. Sa définition nécessite 15 versions différentes. Citons-les en partie. Selon le statut du tribunal militaire international, on entend par crime contre l'humanité l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre. L'ajout du crime contre l'humanité est essentiel pour permettre au tribunal de juger les horreurs commises sur les civils sans lien direct avec la guerre, en particulier celles visant les juifs. En revanche, le terme de génocide, créé 2 ans auparavant par le juriste Raphaël Lemkin, n'est pas retenu par les alliés. La priorité du juge Robert Jackson est ailleurs. Il tient absolument à faire figurer à la toute première place de l'acte d'accusation les crimes contre la paix. Cette notion est une nouveauté juridique absolue. Pour la première fois dans l'histoire, le déclenchement d'une guerre d'agression va être considéré comme criminel. Les Soviétiques, qui ont envahi la Pologne 2 semaines après l'Allemagne nazie, s'opposent, sans succès, à cet ajout embarrassant pour eux. Enfin, les crimes contre la paix sont accompagnés d'un chef d'accusation tout aussi important aux yeux de Jackson, celui de complot. C'est-à-dire le plan organisé en vue de commettre une action criminelle de masse. L'historien Yves Ternon revient sur cette notion sur France Culture.
Car la difficulté est telle qu'on va associer 2 pensées du droit. La common law américaine, qui est basée justement sur une notion très précise qui est celle de conspiracy, conspiratie qu'on a traduite tout au long du procès par complot, mais qui est plus précisément et qui va dominer toute la pensée du procès, l'entente en vue de réaliser une action criminelle. Donc les dirigeants nazis qu'on va juger sont des hommes qui se sont organisés, qui ont planifié une action criminelle. Donc ça, c'est vraiment la pensée centrale de Jackson.
Nur der Staatsangehörige deutschen oder arschverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist.
Venons-en aux accusés. Au procès de Nuremberg, le tribunal militaire international entend juger uniquement les hauts dirigeants dont les crimes n'ont pas de localisation géographique. Au terme de longues discussions entre alliés, 24 noms sont sélectionnés. Tout en haut de la liste, on trouve Hermann Göring, maréchal du Reich et numéro 2 du régime. Les suicides d'Hitler, de Goebbels et d'Himmler font de lui le plus haut dignitaire nazi encore vivant. Juste après, on trouve Rudolf Hess, ancien ministre et ami intime de Hitler, qui lui a dicté Mein Kampf pendant leur incarcération commune. Un personnage étrange dont nous raconterons l'histoire bientôt dans Affaires Sensibles. Il y a aussi Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, qui a signé le pacte germano-soviétique. Pour le reste, les alliés choisissent des hommes représentatifs de l'ensemble du système de domination nazi. On trouve ainsi de hauts gradés militaires comme Wilhelm Keitel, commandant suprême de la Wehrmacht, ou Alfred Jodl, chef de l'état-major. Des chefs de gouvernement locaux également, comme Hans Frank, le bourreau de la Pologne. On trouve aussi des idéologues nazis, parmi lesquels Julius Streicher, et des représentants de l'industrie comme Gustav Krupp. Le 20 novembre 1945, 21 de ces 24 accusés comparaissent dans le palais de justice de Nuremberg. Sans Krupp, jugé trop sénile, sans le haut dignitaire Martin Bormann, introuvable et jugé par contumace, sans Robert Ley, enfin, figure du parti nazi qui se pend dans sa cellule avant le procès. Écoutons un extrait des mémoires d'Edgar Faure, procureur général adjoint français à Nuremberg, celui-là même qui a gouverné la France pendant 1 an, en 1955. Il se souvient de sa confrontation avec les accusés au procès de Nuremberg.
La travée française était la plus proche des boxes. Et de ma place, je voyais à quelques pas de moi les grands criminels. Nous étions, les uns et les autres, habitués à cette situation. Les regards ne se cherchaient pas et se croisaient rarement. Je ne me souviens pas d'avoir reçu, en découvrant ces hommes, le choc de l'aversion, seulement celui de la curiosité. La familiarité des rencontres, même si elles ne s'accompagnent pas de dialogue, émousse de toute façon les réactions émotives. Aucun de nous ne s'abandonnait à la griserie de la haine ou à la délectation de la vengeance. La plupart de ces visages auraient pu appartenir à des échantillons humains des plus courants. Je serais incapable de les photographier dans mon esprit, ni même peut-être, à l'exception de quelques-uns, de les reconnaître.
Le premier jour du procès est consacré à la lecture de l'acte d'accusation. Le lendemain, le juge britannique Geoffrey Lawrence interroge un à un les prévenus. Plaide-t-il coupable ou non ? Premier à parler, Göring tente de lire un texte préparé à l'avance, s'étant vanté auprès de ses co-accusés de vouloir provoquer un incident d'audience. Mais il est immédiatement rappelé à l'ordre par le juge Lawrence. À ce stade, aucun des accusés n'a la parole. L'ancien dignitaire nazi se contente donc de se déclarer non coupable au sens de l'accusation. Rudolf Hess est le deuxième appelé. À la question du juge, il répond simplement non, ce qui déclenche des rires dans la salle. La santé mentale de Hess, jugée dérangée par son avocat, psychopathe par les médecins qui l'examinent, est un problème qui va planer sur tout le procès. Les 19 autres accusés qui suivent se disent tous non coupables, nicht schuldig. Voilà qui donne le ton. Juste après, le procureur général Robert Jackson prononce la déclaration d'ouverture, un moment de bravoure qui frappe immédiatement les observateurs.
Le privilège d'ouvrir le premier procès de l'histoire pour crime contre la paix humaine impose de grandes responsabilités. Les atteintes aux droits que nous désirons condamner et punir ont été si insidieuses, si perverses, si calculées et si dévastatrices que la civilisation ne peut se permettre qu'on les ignore. La civilisation ne survivrait pas à une réédition de ces crimes. Les quatre grandes nations sorties victorieuses mais meurtries ont refusé de se venger et ont décidé de soumettre les ennemis qu'elles ont capturés au jugement de la justice. C'est là un des plus grands hommages rendus par le pouvoir à la raison.
Le procès est lancé. L'accusation va déployer son argumentation pendant de longs mois, de novembre 45 à mars 46. Elle s'appuie principalement sur des milliers de documents saisis par les Alliés pendant la conquête de l'Allemagne, mais plus rarement sur des témoins. Nuremberg est un procès de l'écrit plus que de l'oral. Avocats et procureurs récitent des textes préparés à l'avance, sans aucune place pour l'improvisation. À Nuremberg, on fait aussi, et pour la première fois, l'expérience de la traduction simultanée, en anglais, français, allemand et russe. Chaque participant est doté d'un casque lui faisant parvenir la voix des interprètes, et chaque intervenant parle devant un micro, une lumière jaune s'allumant en cas de débit trop rapide, et une lumière rouge pour lui demander de s'arrêter. Les débats sont donc longs, fastidieux. Après l'effervescence des premiers jours, l'intérêt des centaines de journalistes présents chute, et rapidement. Les accusés eux-mêmes, dont le sort est pourtant en jeu, cachent leur ennui derrière des lunettes noires et sont parfois surpris en train de s'endormir. Jackson et ses équipes perçoivent bien le risque d'un procès trop monotone. Alors ils cherchent un moyen de raviver la tension médiatique. Ils décident d'avancer au cinquième jour du procès un moment clé de leur accusation, initialement prévu des semaines plus tard. Un moment qui va rester gravé dans toutes les mémoires, et notamment dans celle de Joseph Kessel, comme il le raconte à France Culture en 1969.
If the tribunal please, we shall proceed with the projection of the film.
Il y a eu une séance qui a dépassé vraiment à tel point toutes les autres. Jusqu'à présent, je ne sais pas, ça me donne une impression presque d'effroi sacré. Tout à coup, sans prévenir, toutes les lumières se sont éteintes dans la salle, sauf une rampe qui éclairait le visage des nazis, et puis dans le fond de la salle, une autre lumière s'est allumée et c'était un écran de cinéma. Personne n'était prévenu.
Et là, on projette un film rassemblant des images des camps de concentration nazis captés par les armées américaines et britanniques et devant les yeux des juges et ceux du monde entier. Les 21 accusés se retrouvent confrontés à la réalité de leurs crimes. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le procès de Nuremberg.
Prosecution for the United States.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Will at this time present to the tribunal, with its permission, a documentary film on concentration camps.
29 novembre 1945. Les lumières se sont éteintes dans la salle d'audience. Sur un grand écran de cinéma installé face au public, une carte de l'Europe apparaît, indiquant l'emplacement des différents camps de concentration nazis, commenté par une voix off en anglais. Puis viennent les images. Des corps calcinés gisant au sol, figés dans des positions de souffrance absolue. Des femmes à l'agonie dans des baraquements en bois, maigres et dévorées par la gangrène. Des fours crématoires remplis d'ossements. de cages thoraciques et de crânes. Et des cadavres partout, émaciés, cachés dans les granges, empilés dans des fosses communes, laissés en plein air, par centaines, par milliers. Un bulldozer dont le conducteur se cache le nez avec un masque pousse des monceaux de corps décharnés dans un ravin. Pendant une heure, les participants au procès regardent ce film, intitulé Nazi Concentration Camps, composé d'images des camps de Mauthausen, Dachau ou encore Bergen-Belsen. Mais le regard des observateurs se tourne en même temps vers le banc des accusés. Mais qu'éprouvent-ils face à ces images insoutenables? Le psychiatre américain, Gilbert, chargé du suivi des détenus, note scrupuleusement leur réaction dans un carnet. Écoutons.
La projection commence. Fritsch est déjà pâle et frappé de stupeur quand viennent des scènes montrant des prisonniers brûlés vifs dans une grange. Kettel s'essuie le front, enlève ses écouteurs. S regarde fixement l'écran ayant l'air d'un vampire. Funk se couvre les yeux des mains, a l'air à l'agonie, secoue la tête. Von Ribbentrop ferme les yeux, se détourne. Frank avale sa salive, cligne des yeux, essayant de refouler ses larmes. Göring s'appuie à la balustrade, ne regardant pas la plupart du temps, l'air découragé. Funk est maintenant en larmes. Il se mouche, s'essuie les yeux, baisse le regard. Frick secoue la tête à la vue de mort violente. Frank murmure « Horrible ». Rosenberg s'agite nerveusement, regarde l'écran, baisse la tête, cherche à voir les réactions des autres. Cessincar reste impassible. Spire a l'air très triste, avalant sa salive. On voit des piles de morts dans un camp de travail forcé. Sokol frémit à la vue du four crématoire de Buchenwald. Quand on montre un abat-jour en peau humaine, Stretcher dit « Je ne crois pas ça ». Donitz se cache la tête entre les mains. Funk pleure amèrement. Porte la main devant sa bouche au moment où des cadavres nus de femmes sont jetés dans une fosse. Kettel et Von Ribbentrop lèvent les yeux quand on annonce qu'un tracteur emporte des cadavres. Ils regardent, puis baissent la tête. Le film se termine.
Ce film est un coup sévère porté à l'aplomb des accusés, même à celui de l'imperturbable Göring. Mais il ne marque le début des révélations sur l'ampleur des crimes nazis. En janvier 46, le génocide du peuple juif fait son entrée dans le procès avec plusieurs témoignages marquants, dont celui d'Otto Hollendorf. Général SS, ce Hollendorf a dirigé pendant la guerre un commando Einsatzgruppe, ces unités mobiles d'extermination qui ont perpétré à l'Est ce qu'on appelle la Shoah par balle, avec le concours de nombreux Ukrainiens. Fait historique qui sert entre autres de prétexte fallacieux à Poutine aujourd'hui, dans son agression contre l'actuelle Ukraine. Interrogé sur le nombre de personnes assassinées par son commando, Hollendorf avance le chiffre de 90 000 en l'espace de quelques mois. Un bilan qui provoque la stupeur dans la salle. Le procureur soviétique Nitichenko demande alors un éclaircissement aux témoins. Dans votre déposition, vous avez dit que la Einsatzgruppe avait pour objectif l'extermination des Juifs et des commissaires soviétiques. Dans quelle catégorie mettiez-vous les enfants? Pour quelle raison étaient-ils massacrés? Hollendorf répond, l'ordre prescrivait que la population juive devait être totalement exterminée. Comme le souligne l'historienne Annette Bievorka, ce témoignage rend évident ce qui a fait la spécificité d'un génocide, à savoir le massacre des enfants. Un autre témoignage clé est celui de la résistante Marie-Claude Vaillant-Couturier, déportée à Auschwitz, puis à Ravensbrück. Devant les tribunaux, elle livre son témoignage sur la sélection menée à Auschwitz à l'arrivée des convois.
Notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir les hommes, les femmes et les enfants des wagons et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort.
En avril 1946, c'est le commandant d'Auschwitz en personne, Rudolf Höss, qui vient témoigner. Devant la cour, il explique comment Himmler l'a informé de la volonté du Führer de donner une solution finale au problème juif. Et il détaille le processus d'extermination mis en place à Auschwitz. Ce témoignage affecte particulièrement Hans Frank, le gouverneur déchu de la Pologne. Il déclare à un psychiatre américain « C'est là le moment le plus honteux de tout le procès. Qu'un homme dise, de sa propre bouche, qu'il a exterminé des millions de personnes de sang-froid, c'est là quelque chose dont on parlera encore dans 1000 ans. » Ce repentir est-il sincère ? Allez savoir. Mais cela n'efface rien du rôle majeur qu'il a joué dans le génocide. Son journal, qui fait partie des documents clés du procès, est rempli de phrases accablantes. Citons-en une qu'il tient lors d'un discours en 1941. Il dit « Cette guerre ne sera qu'un succès partiel si la juiverie survit. Mon attitude envers les juifs sera donc uniquement fondée sur l'espoir de leur disparition. » Le repentir, réaffirme de Frank, détonne, en tout cas avec les autres accusés, qui affirment unanimement avoir tout ignoré de la solution finale. Göring, pourtant numéro 2 du régime, va jusqu'à affirmer qu'il savait qu'il y avait une politique d'émigration, mais non d'extermination des Juifs. Göring. Attardons-nous sur la grande figure de ce procès et sur sa stratégie de défense, analysée ici sur France Culture par l'historien Fabrice d'Almeida.
Donc Göring, il est au centre d'un immense système et quand il est accusé au procès de Nuremberg, au fond, il sait bien qu'il est le personnage central contre qui va porter l'accusation. Hitler étant absent, c'est lui le numéro 2 du régime. Donc une grosse partie de la stratégie de l'accusation va consister à essayer de montrer comment, pratiquement à toutes les étapes de l'accomplissement du drame national-socialiste, il a été présent et il a été actif. Et lui, sa stratégie de défense va consister à essayer de montrer qu'à chacune de ces étapes, finalement, il n'était pas le décideur principal et que d'ailleurs, il ignore une bonne partie des faits qui lui sont imputés.
Göring est le premier des accusés à comparaître devant la cour le 13 mars 1946. Et c'est bien le grand moment que la presse attend depuis des mois. Ce personnage n'est pas la célébrité du procès pour rien. Il a accompagné toute l'histoire du national-socialisme. Compagnon de la première heure de Hitler, il était président du Reichstag dès 1932, puis ministre de l'aviation et commandant en chef de la Luftwaffe, et enfin, maréchal du Reich, le plus haut grade de la Wehrmacht. Homme d'excès et de plaisir, il est connu pour sa corpulence, son goût pour les œuvres d'art, qu'il a pillé à travers toute l'Europe, et pour son addiction à la morphine. Lorsqu'il comparaît devant le tribunal, il a considérablement maigri, mais il n'a rien perdu de sa morgue. Il parle pendant 6 heures, sans notes, impressionnant les observateurs par sa vivacité. Sur le fond, la stratégie de Göring est d'assumer devant le monde entier, une toute dernière fois, le projet politique nazi. Un journaliste allemand décrit sa déposition comme un ultime discours de propagande aux proportions démesurées, l'adieu au monde du national-socialisme. Après ce chant du cygne, vient le moment du contre-interrogatoire mené par Robert Jackson. Le procureur américain s'empêtre rapidement dans son duel avec le haut dignitaire nazi, qui profite de ses questions pour faire de longs développements à son avantage. Jackson va jusqu'à solliciter, sans succès, l'intervention du juge Lawrence, comme le racontait Edgar Faure.
Il a été extrêmement ulcéré et mécontent parce qu'il n'arrivait pas à placer Göring dans les conditions habituelles de cross-examination qui implique que l'accusé interrogé réponde brièvement et de préférence par oui ou par non. Jackson est arrivé au tribunal, il a fait une intervention, il s'est adressé au président Lorenz et à ses assesseurs, il a dit l'accusé n'aide pas la justice en quelque sorte. L'accusé sabote parce qu'il ne répond pas par oui ou par non, il fait des discours et on ne peut pas arriver ainsi à la conclusion de ce procès. Le président a fait une observation à Göring en conséquence, et Göring a dit, Monsieur le Président, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Et pourquoi ? Parce que j'ai juré de dire la vérité. Or, la vérité ne peut pas s'exprimer par oui ou par non, donc je vais vous expliquer la vérité.
Le contre-interrogatoire de Göring par Jackson est sévèrement jugé par la presse. Il constitue d'ailleurs l'un des échecs de l'accusation, qui a montré d'autres faiblesses pendant le procès. La plupart tiennent à la présence de l'URSS parmi les puissances accusatrices. La défense exploite ainsi et avec succès le tabou entourant le pacte germano-soviétique. Elle révèle, par le biais de témoignages, l'existence d'un accord secret entre Hitler et Staline, prévoyant le partage géographique de la Pologne. Ribbentrop a alors beau jeu de souligner à la barre que, si l'on parle d'agression, alors les deux pays sont coupables. Le massacre de Katyn constitue lui aussi une autre zone d'ombre de Nuremberg. Rappelons qu'au printemps 1940, dans cette forêt proche de Smolensk, plus de 4000 officiers polonais ont été assassinés d'une balle dans la nuque, puis ensevelis dans des fosses communes. S'il est établi aujourd'hui que ce crime de guerre est l'œuvre des soviétiques, pas des nazis, il y a une certaine perversité de leur part à faire figurer Katyn dans l'acte d'accusation. L'historien Christian Delage revient sur ce moment peu glorieux du procès sur France Culture.
Et si on pouvait éviter l'affaire Katyn, mais non, les soviétiques voulaient absolument, donc il y a vraiment des discussions pour les convaincre de ne pas le faire, parce que eux voulaient continuer à laisser croire que c'était les Allemands qui l'avaient commis. Ils avaient même essayé de faire venir des témoins qui étaient en fait soudoyés, des témoins polonais qui auraient dit que c'était bien les Allemands qui avaient commis cela. Donc ils ont retrouvé 2-3 témoins. Et au sein même de l'accusation soviétique, il y a eu des tensions, si vous voulez, puisque l'une des personnes dans l'accusation soviétique était très impliquée dans cette histoire. Considérait que c'était vraiment pas une bonne idée.
31 août 1946, les débats s'achèvent par une ultime déclaration des accusés. Göring clame une dernière fois son innocence, affirmant avoir seulement agi par patriotisme. Quant aux autres prévenus, ils déclinent toute responsabilité dans les atrocités nazies. Ils n'ont fait, chacun d'entre eux, que leur devoir. Vient alors le temps de la délibération pour les quatre juges et leurs suppléants. Le jugement est lu les 30 septembre et 1er octobre 1946. À la surprise générale, les juges annoncent 3 acquittements, dont celui de Schacht, ancien ministre de l'économie, et de Von Papen, ex-chancelier du Reich. Les autres accusés ne bénéficient pas de la même clémence. Lors d'une ultime audience, où la presse est exclue, ils prennent connaissance du jugement. Les peines choisies vont de 10 ans d'emprisonnement jusqu'à la mort par pendaison retenue pour 11 des accusés. Revenus dans leur prison, les condamnés à mort sont abasourdis par le mode d'exécution choisi, la pendaison, jugée plus infamante que la fusillade, surtout pour des militaires. Devant le psychiatre, Gilbert, l'ex-chef d'état-major Alfred Jodl se lamente. Cela, je ne le méritais pas. La mort, très bien. Il faut bien que quelqu'un porte la responsabilité. Mais ça, non. Cette mort, par pendaison, Göring trouve un moyen d'y échapper. Dans sa cellule de prison, il avale une capsule de cyanure. Tout est consommé. 80 ans après, le procès de Nuremberg, qui était pourtant sans précédent, reste sans postérité. Aucun procès comparable visant des hauts responsables d'un État n'a eu lieu depuis. Les crimes jugés à Nuremberg, crimes de guerre, crimes contre la paix, crimes contre l'humanité, sont pourtant loin d'avoir disparu de notre présent. Au contraire, ils s'y multiplient, mais avec des perspectives de jugement qui paraissent très lointaines, voire chimériques. Alors, que vaut l'héritage de Nuremberg ? Ce grand procès restera-t-il comme une parenthèse sans lendemain ou comme l'aube d'une ère nouvelle ? Eh bien, l'histoire nous le dira. La justice internationale, apparemment si fragile, n'a peut-être pas dit son dernier mot.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le procès de Nuremberg. Bonjour, Sybille Inberg.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, historienne, autrice de Nuremberg, La bataille des images, aux éditions Payot, dont l'édition en poche est à paraître le 8 octobre. Alors évidemment, vous êtes spécialiste des liens entre la Seconde Guerre mondiale et le cinéma, et évidemment, ce procès de Nuremberg, j'allais dire, sans vouloir me répéter, est une évidence pour vous, en termes d'études entre le rapport entre l'image et l'histoire. C'est un morceau de choix.
Oui, parce que vous avez rappelé tout à l'heure les enjeux
politiques,
juridiques. Il y a d'autres enjeux qui sont plus extrajudiciaires. Il s'agit pour les Américains, il s'agit pour Jackson, de mettre en scène, d'utiliser Nuremberg comme vitrine de la justice démocratique. Et l'outil privilégié pour imposer ce récit au monde, ce sont précisément les images. Et vous avez rappelé la projection tout à l'heure, mais il y a une intrication des usages de l'image, puisque les images sont utilisées comme preuve, mais dans le même temps, les audiences sont partiellement filmées. L'enjeu est de réaliser non seulement des actualités, mais un grand film qui tirera les enseignements, le jugement de Nuremberg. Donc, les images sont sollicitées d'une manière tout à fait pionnière. Il y a eu une projection de film preuve peu de temps avant, organisé par les Britanniques à Lunebourg, dans le cas du procès de Bergen-Belsen. Mais là, quelque chose de nouveau advient. À l'origine de cette innovation, on trouve le général Donovan, qui est le chef de l'OSS, le service de renseignement des États-Unis, c'est l'ancêtre de la CIA, qui est un général flamboyant et extrêmement ouvert sur la modernité, et qui a dans son équipe une section cinématographique qui est dirigée par le grand cinéaste hollywoodien John Ford.
Oui.
Et c'est cette équipe, la Field Photographic Branch, qui va se voir assigner toute une série de missions dès le mois de juin 1945.
Alors, ce procès, évidemment, c'est d'abord la vérité historique, mais aussi les leviers de l'émotion. Et les deux grands leviers de l'émotion, il y a la projection du film sur les camps de concentration, on va y revenir, mais il y a aussi les accusés. Comment on les filme ? D'abord, pourquoi on les filme et comment on les filme ? J'imagine que c'était un grand débat.
Il faut quand même rappeler une autre innovation de Nuremberg, c'est la coprésence dans le prétoire de trois équipes de tournage.
On
parle souvent des Américains.
Et puis aussi la traduction des langues, on y reviendra.
Absolument. On parle des Américains, en fait, John Ford... L'équipe de John Ford, du moins, aurait dû filmer le procès, mais elle ne l'a pas filmé. Les audiences sont filmées par les militaires, par l'armée, par le Signal Corps américain. Et dans le même temps, en concurrence, on trouve une équipe extrêmement aguerrie qui est dirigée par le grand cinéaste et opérateur de guerre, Roman Carmen. Enfin, les opérateurs d'actualité des pays occidentaux ont également l'autorisation d'envoyer un opérateur et un photographe par pays. Ça veut dire qu'on a ici des équipes qui filment avec des enjeux, des traditions extrêmement différentes. Et de ce point de vue-là, le pays qui a la tradition la plus longue en termes de filmage des procès, c'est l'Union soviétique, puisque le genre du film de procès est né dès les années 20 et s'est perfectionné, si j'ose dire, pendant la grande terreur stalinienne, et revient en 43 avec le grand procès de Kharkov, c'est le premier procès de criminels nazis et de leurs collaborateurs. Donc, il y a la volonté chez les soviétiques d'utiliser l'image pour leur propagande et en se conformant aux règles du genre. Et dans ces règles-là, il est certain que les accusés jouent un rôle considérable, d'autant plus que les caricaturistes soviétiques qui sont présents dans la galerie de presse ont, pendant toute la guerre, offert des caricatures des hauts dignitaires qui se trouvent désormais assis sur le banc. Et l'obsession de Roman Carmen, il possède une petite caméra Eimo, il va souvent filmer pendant les pauses, c'est précisément d'observer en continu la réaction des accusés et en particulier celle de Göring. Il agit véritablement comme un chasseur. Il faut quand même préciser que, et ça renvoie vraiment à la philosophie du procès américaine, l'équité du procès exige que Nuremberg ne tourne pas au cirque médiatique. Il y a vraiment le spectre chez Jackson et son équipe de ce qui s'est passé au moment du procès Lindbergh, enfin de du procès du meurtrier de l'enfant Lindbergh, c'était en 1937, et ce procès a donné lieu à un débordement médiatique. Et pour Jackson, il est inconcevable d'autoriser ce média circus dans l'enceinte de Nuremberg. Et donc, les opérateurs sont contraints dans des cabines vitrées et peuvent pas se déplacer librement. Il n'empêche que les soviétiques vont trouver des parades. Carmen va notamment beaucoup filmer dans l'entre-deux du procès, pendant les pauses. Il va aller jusqu'à refaire jouer par ses procureurs, pour mieux les filmer, les discours qu'ils ont prononcés à l'audience.
Bien. Alors, l'autre levier important, évidemment, c'est la projection de ce film sur les camps d'extermination nazis. Il eût été complètement improbable qu'il ne fût pas diffusé, évidemment. Et c'est vraiment le tournant ou pas ?
C'est un moment dramaturgique majeur du procès. Vous l'avez rappelé, sa projection est avancée pour ces deux raisons. D'abord, l'ennui qui s'empare de la presse, parce que Jackson, en désaccord total sur ce point avec Donovan, a décidé de fonder l'accusation non sur la convocation des témoins, mais bien sur les documents écrits nazis. Et ces lectures sont interminables. Là, très vite, la presse. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que les nazis commencent à pavoiser. C'est un moment, c'est le moment du procès où les Américains évoquent notamment l'Anschluss. On assiste même à une scène absolument sidérante au cours de laquelle, lorsque l'un des procureurs américains lit la transcription d'une conversation entre Göring et Ribbentrop. Göring part d'un rire gigantesque qui va comme une traînée se répandre sur tous les rangs. Et c'est ce jour-là que les Américains décident d'essayer reprendre l'ascendant sur le procès. Et donc, on voit bien qu'il y a deux éléments dans cette projection. C'est à la fois des images preuves qui ont été filmées comme telles par les Américains et par les Britanniques. Et elles sont assorties d'ailleurs de toute une procédure judiciaire avec des affidavits, des certificats sous serment, hein, notamment du chef du Signal Corps, George Stevens, qui a coordonné ces tournages. Mais dans le même temps, c'est la dramaturgie qui l'emporte. Vous avez rappelé ce choix d'éclairer les visages des accusés.
Oui, là, c'est une
et
vraie mise en scène.
De fait, l'attention des journalistes va se tourner vers les réactions un peu dans ce clair-obscur de la salle d'audience, d'autant que certains ont pu voir les images juste avant. C'est véritablement un moment de dramaturgie et de théâtre fondamental qui rappelle finalement, on pourrait le comparer à cette scène de Hamlet, hein, la fameuse pantomime de Hamlet lorsque le jeune prince commande à des comédiens une pièce qui va rejouer l'assassinat de son père par son oncle et qui dit à Horatio « Regardez les visages et lisez sur leurs visages » pour établir la culpabilité de mon oncle et de ma mère. Et d'une certaine manière, c'est ça qui se joue, c'est une punition symbolique avant l'heure du verdict.
Et est-ce qu'on en apprend autant par les images filmées au sein de l'audience que par les images filmées pendant les pauses ?
Alors, pour ce qui concerne les... Il faut vraiment distinguer ce qui a été filmé par les Américains et par les Soviétiques. Les Américains font preuve, je dirais, d'une certaine passivité. Leur tournage est assez médiocre. Le projet de John Ford a été complètement énervé par l'imaginaire hollywoodien, par ses propres films de court drama. Mais là, il y a quelque chose de très plat et comme si finalement enfermé dans leur box vitrée, ils suivaient pas véritablement l'action, ce qui se passe sur scène. Et un seul exemple, pour filmer le grand discours dont on a entendu le début, le grand discours inaugural de Robert Jackson, qui est un grand moment de cette audience, ils choisissent de se positionner dans son dos.
Derrière, oui.
Et ils vont totalement obérer la possibilité de le montrer dans les actualités et au cinéma. Alors même que les Britanniques ont bien, ont bien compris qu'il faut se mettre face aux orateurs.
Alors, en dehors de l'image, vous racontez quand même dans votre livre que Göring aurait dit, et puis ils ont montré cet horrible film, le film sur les camps de concentration, et il a dit, Et ça a vraiment tout gâché. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que si ils pouvaient tous s'en sortir en disant que c'était les ordres, mais qu'à partir du moment où on voyait ça, ils étaient coincés.
Alors,
est-ce que c'est ça qu'il veut dire?
Ça a tout gâché. En fait, ça a gâché essentiellement.
C'est bizarre, hein, ça a tout gâché.
Ce moment d'audience qui s'est conclu par le rire de Göring. C'est le moment où l'accusation américaine évoque l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche.
Ah, d'accord.
Et tout se passe bien du point de vue de la défense jusqu'au moment où ce film, effectivement, renverse la situation et permet aux Américains de reprendre l'ascendant dans l'accusation. Et ce qu'il faut préciser au sujet de Göring, vous avez parlé de son interrogatoire et de son contre-interrogatoire, c'est que Göring se savait, évidemment, condamné à mort et qui va jouer constamment la carte du spectacle.
Ouais. Et c'est fidèle à son personnage.
Absolument, et utiliser le box des accusés comme
tribune.
Une tribune idéologique. Il va vraiment sculpter le marbre de son tombeau. Il sait qu'il va être condamné, mais il soigne son image et il soigne la dramaturgie de sa prestation.
Et votre livre comporte deux parties. Une partie qui nous parle du procès rêvé et l'autre du procès réel. C'est quoi la différence?
Le procès rêvé, c'est le procès tel que l'avait imaginé l'équipe de Jackson, et en particulier l'OSS. Bill Donovan s'étant mis au service de Jackson pendant cette période de préparation. Mmh. Donovan disait « Nous allons raconter au monde le plus grand conte moral jamais narré ». Hein. Ouais. Donc c'est ça au fond le procès rêvé. C'est aussi, donc je suis toute la préparation et la manière dont les Américains vont s'investir dans un certain nombre de missions qui vont donner des résultats extrêmement mitigés au moment où on entre dans le procès réel, sur scène, et que le procès se déroule, que Jackson s'aperçoit que sa stratégie est un échec sur le plan médiatique, ouais. Et que le procès lui-même va être pris dans les turbulences de la guerre froide.
Oui, alors justement, et on va finir avec ça, pardon, parce qu'il nous reste que 50 secondes. Les Soviétiques, vous disiez, les Américains voulaient montrer qu'on pouvait faire ce qu'était un procès démocratique. Alors évidemment, les Soviétiques, c'est une dictature à l'époque, hein, évidemment. Un petit peu sont assis entre deux chaises, c'est compliqué.
Les Soviétiques gagnent la bataille des images.
Oui, ça on l'a dit, mais pas politique.
Bien sûr que non, la question de l'équité leur importe peu, mais ils arrivent à réécrire le procès, hein, dans le film de Carmen, tel que le Kremlin aurait voulu qu'il se déroule.
Voilà. Bon, c'est bien soviétique. Hein.
Tout à fait.
Bien, ce sera le mot de la fin, Sylvie Lindberg. Lindberg, merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le procès de Nuremberg, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Julien Thévenot.